très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Bon vendredi midi à tous et à toutes. Bienvenue à Ciné Histoire. Je suis accompagné en ce moment, brièvement, par un autre Alex, mon homonyme, T-Musique. Comment ça va?
Ça va bien, va bien.
Est-ce que tu as eu le temps de regarder des beaux petits films cette semaine? Ouais, ben c'est bien correct.
J'ai même pas eu le temps d'écouter Arcane, là, la saison 2.
La saison 2. Ah ouais, t'as embarqué dans saison 1?
Ouais,
je sais que t'es un ancien de LOL.
Ben je joue encore mobile, comme un homme
Comme ça se doit. Ça a été pensé pour
comme
ça.
C'était prévu. Ben, je pense que c'est mieux que. Tu sais, ils ont essayé de sortir genre Diablo, là, version
Ouais.
Je pense que ça, il y avait eu du gros backlash. Mais c'est le fun, les games sont comme vraiment moins longs. Fait que ça fit mieux dans mon horaire.
Ouais, je comprends. T'es ça, t'es bien occupé, tu sors un EP, toi, en ce moment.
Eh oui.
Fait que t'es en tournée partout au Québec. Surtout à Sherbrooke,
ouais, c'est ça.
Mais partout au Québec. On est bien content de te recevoir à l'émission. Le film que tu as vu, c'est Nous les Lerois, qui est une des nouveautés qui prennent l'affiche aujourd'hui. Bon, je t'avouerai que c'est pas la plus grosse nouveauté qui prend l'affiche aujourd'hui, parce qu'il y a comme, bon, ils ont essayé un peu en joke d'essayer de recréer l'effet Barbenheimer là, de passé. Là. Ce week-end, ben, c'est Gladiator 2, la suite que personne n'avait demandé, je crois, qui prend l'affiche, ainsi que Wicked Partie 1, qui est l'adaptation de la pièce Broadway, qui est un espèce de spin-off sur Le Magicien d'Oz. Puis, étonnamment, c'est Wicked, pour l'instant, qui a les meilleures critiques. Étonnamment, je ne sais pas si c'est étonnant, moi, je jaillis les comédies musicales, fait que c'est sûr que je ne suis pas le public.
Ouais, j'en parlais avec notre collègue, là, Amy, là, de Wicked, puis on a juste vu les deux le trailer, puis les deux, on a eu la même réaction, on a fait « Voyons, le monde n'a pas de l'air ensemble!
» Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est pas juste parce qu'ils sont verts, là, mais c'est vraiment. Ben, c'est ça, c'est un peu bizarre. Puis, tu sais, moi, je suis pas un grand fan. Tu sais, il y en a eu quelques adaptations. Ben, Cats, là, plus notoirement. Puis, moi, c'est vraiment. C'est juste comme, bon. C'est sûr, je trouverais pas mon compte parce que ça chante, mais à part de ça, qui veut vraiment d'un spin-off du Magicien d'Oz, là, tu sais, savoir qu'est-ce qui se passe chez les sorcières. Mais outre ça aussi, c'est le fait que le film dure 2h40.
Hein?
Puis que c'est la partie 1 de 2. Puis que là,
2h40,
je suis comme...
j'imagine que ça s'adresse aux enfants.
Non.
J'ai vu le trailer, là.
pas seulement. Pas seulement, je dirais. Sûrement un peu, là. On se le cachera pas. Mais ouais, c'est ça. C'est comme un gros engagement. Et pourtant, le film est peut-être pressenti pour être dans la course à l'Oscar du meilleur film.
Ah, oh, ouais.
J'ai hâte de voir ça. Là.
Hey, je dis ça juste au trailer, j'étais comme non. Ouais. Tu sais, pas quand j'ai de quoi contre les. Tu sais, si t'aimes pas les comédies musicales, là. Mais
ouais, c'est ça.
Je suis comme neutre là, face à ça, mettons.
Ouais.
Là,
celle-là, c'était un red flag.
Non, là. Ça se peut pas.
Tu sais, je suis comme curieux de le voir, mais pas assez pour aller le voir au cinéma, je crois.
Mais en fait, non, je pensais l'écouter, mais comme dans l'optique que c'est un so bad it's good. Là, avoir bien du fun parce que je me semble que c'est ça que j'ai vu, puis c'était cringe. Là, puis, en tout cas.
Peut-être que ça l'est. Pour l'instant, les critiques, certaines critiques de gens qui ont moins aimé ont dit essentiellement c'est 2 heures de filler pour les 40 dernières minutes qui sont vraiment bonnes. Fait que c'est quand même un gros engagement.
Ouais,
là, surtout qu'il faut t'attendre au moins 6 mois avant que l'autre sorte. Là. Fait que, en tout cas, je sais pas trop, mais sinon, il y a Gladiator 2 qui lui aussi, les critiques sont relativement tièdes. Malheureusement, encore une fois, c'est ça, qui avait demandé une suite à Gladiator 2, ça, on se le demande. C'est le même réalisateur qui revient, donc au moins il y a une certaine continuité là-dedans. Mais c'est ça, la distribution est quand même intéressante. Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal, tu sais, des acteurs qui ont quand même la cote, mais c'est ça. J'ai essayé de regarder le premier. Le premier avait quand même gagné l'Oscar du meilleur film là, en 2001. Là. C'est pas rien. Là. Il y avait eu un gros buzz.
Moi, je sais que tous les profs d'histoire étaient...
Ouais.
Ils le faisaient écouter à chaque année dans leur classe.
C'était le nouveau Ben-Hur. Checkez ça, c'est vraiment bon. Il va mettre son pouce par en bas. mais c'est ça, tu sais, c'est... Je l'ai vu le premier, ça fait longtemps. Je voulais le regarder pour l'occasion. J'ai pas eu le temps de le fitter dans mon horaire parce qu'il dure quand même 2h30 le premier, puis le deuxième aussi. Là. Fait que c'est ça, ils sont peut-être même en train de jaser pour un 3. Hein? La fameuse trilogie Gladiateur. Hein? Pourquoi pas?
Je pense que mettons, si je me fais à ce que mon prof d'histoire avait dit, c'est comme dans 3, là, ils ont comme dans 3, ils ont pas mis les dieux, que dans le livre, il y avait plein de dieux sur le champ de bataille. Là, dans Gladiateur, on dirait ils vont pas dans le le reenactment de, tu sais, ils mettaient des fois, ils remplissaient d'eau le Colisée.
Ouais.
Il avait pas été à... Il avait pas poussé les combats comme théâtral qu'il y avait comme peut-être à l'époque. Là. Fait que là, j'ai l'impression que dans le 2, c'était un petit peu plus axé sur ça, là, de ce que j'ai vu dans le trailer encore.
Mais c'est ça, question de trailer. Je regarde pas beaucoup les trailers, moi, parce que c'est ça, j'essaie de pas trop me spoiler là-dessus. Là. Mais tu sais, je suis quand même curieux. Lui, je vais essayer de le faire fitter dans mon horaire la semaine prochaine pour. Bon. Ça a l'air un peu plus spectaculaire que.
Un film de gars.
Un film de gars, ouais, c'est ça qui va jouer à TVA, là, un jeudi soir.
15 ans.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bon, j'ai oublié mon idée, mais bref. Ah oui, c'est ça. Ben Ridley Scott, tu sais, ça, c'est un réalisateur quand même assez iconique, mais j'aime toujours... Un film sur deux qu'il fait, je l'aime, puis l'autre, je le déteste. Là, son plus récent projet, c'était Napoléon. Donc, qui avait pas eu des bonnes critiques, que j'avais trouvé quand même correct. Avant ça, il avait fait House of Gucci, que j'ai trouvé dégueulasse. mais The Last Duel, qui était sorti la même année, c'était bon. Fait que, c'est ça, il fait toujours un hit ou un miss. Il est jamais comme un film juste correct. Fait que j'ai hâte de voir celui-là pour savoir un peu. Parce que je suis rendu papa là, dans mes goûts aussi. Là. Fait que peut-être que j'aime ça, juste
c'est
la.
C'est quoi des films de papa?
Ben, Napoléon, c'était pas mal un film de papa.
Ça, c'est comme, vrai que ça, c'est okay, mon père regarderait.
On a 48 minutes pour montrer une bataille sur un lac gelé.
Dans le temps, c'était différent.
Il y a des grosses fortifications, là, des trébuchets.
On
a
plus ça, là.
Non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, je me suis papaïsé dans mes goûts de cinéma, mais c'est ça. Je suis quand même curieux. Moi, j'ai étudié en histoire, évidemment. Mais c'est ça, le premier Gladiateur, déjà, autant je vois que c'est un bon film, autant tu sais, j'ai jamais eu le besoin de retourner. Tu sais, c'est comme Kingdom of Heaven, c'est lui aussi qui avait fait ça. Puis c'est ça, c'est des films, tu sais, des gros films historiques. À chaque fois, je suis comme ah, j'ai-tu le temps de regarder ça pendant 2h40? Là? Tu sais, c'est ça. C'est bref. J'ai bien hâte de le voir. Des autres nouveautés qui prennent l'affiche aujourd'hui, ben, il y a Nous les Leroy, dont on va parler tout de suite après la pause. Il y a Maria Montessori, La Nouvelle Femme, qui est un biopic un peu sur la dame qui a inventé la méthode de Montessori, qui est une méthode d'apprentissage pour les enfants, ben, pour les enfants en général, mais aussi pour les enfants atteints de déficience intellectuelle. Donc, c'est une chercheuse italienne, une médecin italienne du début du 20e siècle. Bref, un biopic sur ça. Il y avait aussi le film Le Roman de Jim, qui est adapté du roman Le Roman de Jim. des fois, les gens, ils pensent pas comment ils appellent leur truc. Mais bon. Puis, ça aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien hâte de vous en parler puis d'essayer de comprendre un peu pourquoi j'ai aimé ça malgré tous ses défauts. et puis... Si le temps le permet, ben j'aimerais ça parler de d'autres petits films que j'ai vus, notamment The Wild Robot, qui est encore à l'affiche à la Maison du cinéma, qui sont d'ailleurs en projection gratuite dimanche, projection familiale, donc si vous avez des enfants, amenez-les. Il y a Despicable Me 4 et The Wild Robot, je vous recommande clairement le deuxième. Donc, d'aller voir ça avec vos enfants. Mais j'ai amené mon fils de 2 ans et demi au cinéma. Je me suis dit, on le laissait, puis ça a bien marché, mais fallait que je le feed de chocolat pour qu'il reste bien en place puis qui se promène pas trop. Fait que, mais ça a été une belle expérience quand même. Et on a Émilie Boivin aussi qui va venir nous parler de ses scènes préférées de John Wick, chapitre 4, que j'ai regardé aussi pour l'occasion. Donc, ce sera un peu plus tard à l'émission. Et est-ce que j'oublie d'autres sujets? Je sais plus. Ah oui, Anora, la plus récente Palme d'Or, je vais vous en parler aussi. Bref, tout ça est bien plus dans cette édition de Ciné Histoire. On s'en va à une petite pause publicitaire, puis au retour, ben, on parle de notre première nouveauté, soit Nous les Leroy.
Un jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et commençons tout de suite avec notre première nouveauté de la semaine. Un film, mais une comédie, dramatique. En tout cas, c'est comme... Ça commence en drame, ça finit en comédie, là, presque. C'est Nous les Leroy, le premier, si je ne m'abuse, long métrage de Florent Bernard. Oui, je crois bien. Donc, qui met en vedette quand même Charlotte Gainsbourg, José Garcia, ce dernier, là, qui est quand même un comique français bien apprécié. On y suit l'histoire de la famille Leroy. qui est un peu à la croisée des chemins. Là, donc, les enfants quittent pour la fac. Puis, l'un des deux là, qui quitte pour la fac. Donc, les enfants sont âgés de 17-18 ans. Puis là, il y a une remise en question à l'intérieur du couple, des parents. Et puis, la mère, qui est interprétée par Charlotte Gainsbourg, veut quitter la famille, mais sans trop détruire la cellule familiale. Et puis là, apprenant tout ça, le père décide de faire un dernier road trip down memory lane pour aller dans les dans les moments forts de cette famille qui n'a pas tant de moments forts finalement. Là, mais...
Comme tu te souviens, il y a 30 ans, on est allé au restaurant. Ah ouais!
Ça ressemble un peu à ça. C'est ça. Les critiques sont relativement tièdes. Puis je vous mentirais si je disais que j'avais pas ri à certaines places. Ben honnêtement, j'ai quand même trouvé certains gags drôles, ce qui est pas le cas de la plupart des films, des comédies françaises, là. Surtout quand c'est Franck Dubosc ou des acteurs qui sont souvent un peu plus volubiles ou que leur branding, c'est juste d'être choqué. Puis j'ai quand même trouvé certains aspects bien faits, même si le tout est peut-être pas super cohérent. Je sais pas, toi, qui est pas le plus grand fan non plus des comédies françaises, je sais pas si toi, t'as été... comment t'as vécu ça, là, ce film-là?
Ben... Je me retrouve confus, OK?
Ouais.
Parce que je pense que c'est la première fois que j'aime plus un film que toi qui me revient. Puis tu sais que, tu sais, dans le sens, les comédies françaises, c'est pas vrai. Tu sais, OSS 117, je pourrais l'écouter en boucle, là, puis tout ça.
Je les mets d'une classe à part, là, parce qu'il y a des vraies bonnes comédies françaises, puis après ça, il y a des comédies françaises grand public. Là,
qu'on a parlé dans le cadre de l'émission, là. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est comme... Je pense que je m'identifie... Je pense que je suis fatigué. Je m'identifiais au personnage du père, là. J'étais comme, gars, il a le droit d'être fatigué. Il travaille beaucoup.
Dans une location, une compagnie de location de véhicules, c'est pas facile.
Ben non, c'est ça. Puis là, je sais pas, man. Je suis peut-être fatigué, fait que j'étais à fleur de peau, mais... Tu sais, je me voyais touché par des affaires. J'étais comme, pourquoi je suis touché par ça?
Ouais.
Mais je pense qu'ils ont trouvé quand même un... J'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'il était vraiment sur un sweet spot de joke puis de drame. Puis comment je trouvais qu'ils traitaient les bouts plus dramatiques, c'était intelligent. Puis c'était comme... Il y avait des nuances que c'était comme... C'était pas juste... Souvent, tu sais, dans ces trucs-là, c'est comme... Lui, c'est le méchant. Il ne fait pas ça. Là. Il y avait une certaine... on s'entend, c'était pas Breaking Bad où c'est comme tu passais, comme t'haïs un personnage, que là, tu l'aimes. T'sais. Mais il y avait quand même une complexité au niveau de pourquoi tel personnage agit comme ça, pourquoi ça va mal dans le couple. Puis que là, il fait des efforts, mais il est à chier. Puis là, au début, la madame est comme... t'es à chier, ça confirme mon choix. Mais là, on dirait que ça l'a comme... En le voyant qu'il essaye, il est retourné un petit peu plus à l'homme qu'elle est tombée en amour avec. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était tout le temps bien nuancé entre tu comprends pourquoi un personnage est fait la mauvaise affaire, puis là, il fait la bonne chose, fait que tu lui pardonnes. Puis l'humour venait comme balancer tout ça avec...
Ouais.
Puis l'humour m'a surpris parce que autant que tu avais des scènes très classiques de très stats, là, de comme, tu sais, de genre, c'est le bout dramatique. Puis là, après, t'as de l'humour, mais comme ultra champ gauche, là.
C'est ça. C'est ça qui m'a surpris un peu, tu sais. Puis le film est vraiment comme en trois phases, là, si on peut. Tu sais, ça commence vraiment dramatique, ça vire très comique. Puis après, ça vire comme...
feel good.
Feel good, là, c'est ça. Moi, tu sais, quand je l'ai regardé, justement, j'étais avec la douce moitié à la maison. Puis là, tu sais, j'étais quand même, veux-tu écouter ça? T'sais, c'est une comédie dramatique, quelque chose comme ça. Puis là, tu sais, ça faisait comme 20 minutes, puis elle est comme, c'est une comédie? Puis là, tu sais, les 20 premières minutes, c'est essentiellement la mère qui pleure à sa job parce qu'il n'y a plus de chimie dans son couple, la fille qui s'ouvre les veines, puis les affaires de mère. Puis là, t'es comme, j'ai hâte de voir l'aspect comique parce que c'est ça, José Garcia, là, tu sais, je l'ai jamais vu d'un rôle dramatique. Charlotte Gainsbourg, oui, là, elle fait un peu de tout, mais comme, c'est ça, là, je suis comme, il y a de la comédie qui va embarquer à un moment donné. Puis là, quand ils partent en road trip, là, ça devient quasiment burlesque. Là, c'est comme, pourquoi c'est. On dirait que je regarde un autre film. Mais ça fitait quand même. Puis tu sais, c'est ça, quand tu parles d'humour champ gauche, effectivement, c'est pas tout qui fonctionnait, mais il y avait quand même des surprises dans les gags qui faisaient... OK, tu sais, c'est pas le genre de joke grand public nécessairement.
Non, c'est pas genre, il a fait toute une face là, parce que sa bouffe était pas bonne. Ouh là là!
Ouais, c'est ça. Il y avait quand même, tu sais, les fameuses scènes de cinéma français là, d'engueulade, là, ça, il y en avait, que ce soit avec les caricaturistes, que ce soit au resto. Mais la scène du restaurant était quand même particulière aussi, là, parce que l'engueulade était relativement crédible, puis là, après ça, il arrive une situation où, comique, là, ou en tout cas, tu sais, de pur malaise, là, tu sais, de l'humour malaise. Tu sais, c'est ça.
Mais je trouvais que, c'est ça, c'était dans la crédibilité de comme, moi, tout, là, je me mets à la place du gars, là.
Ben ouais.
Puis t'es rendu, là, t'es dans la cinquantaine, là, tu t'en crisses, là. Puis là, tu dis, gars, là, comme, tu vas me laisser, anyways, là, il était censé aller chanter une chanson sur le stage, puis il est, ben, de la marde, puis là, il va sur le stage, il fait juste prendre la tribune qu'il y a pour dire de la marde, puis j'étais comme, c'est de quoi que je ferais à cet âge-là?
Ouais, c'est ça.
Fait que c'était n'importe quoi, mais c'était tout le temps comme quand même dans
l'optique
du crédible, là, somme toute.
C'est ça. Ouais, effectivement. Puis tu sais, ça amène des, ben, pas nécessairement des réflexions intéressantes, mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs couples qui se sont sentis dans cette situation-là à un moment de leur vie, tu sais, quand les enfants s'enligne pour être sur leur départ un peu, ben là, c'est ça, tu sais, ça fait 20 ans que tu dédies ta vie pas mal aux enfants. Je commence à le vivre en ce moment, même si mes enfants sont relativement jeunes. Je suis comme, on met beaucoup d'efforts puis d'énergie là-dedans. Puis comme, tu sais, si je me fie à moi que je suis parti de chez nous à 16, 18 ans, je suis comme, mes parents ont dû s'ennuyer pour mourir. Une fois que je suis parti, je suis enfant unique. Fait que je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis, tu sais, je suis pas l'enfant modèle non plus qui les appelle à tous les semaines pour faire prendre des nouvelles.
Moi, semble-t-il qu'il y avait hâte.
Ah ouais, bon, c'est ça. C'est pas tous les parents qui sont pareils, mais tu sais, je suis comme, hey, tu sais, moi, dans 20 ans, quand mes enfants vont s'en aller, je vais être perdu dans ma grande maison.
C'est vrai que tu mets tout. Un grand pourcentage de tes rêves et hobbies sur la glace parce que ça devient. Tu sais, j'ai un chien, là, puis comme ça...
ça défait ton planning de
c'est
semaine.
Ça. fait que oui, mais effectivement, ça fait. Puis là, c'est ça, elle est arrivé comme... Ça me tente pas de rester tout seul avec lui, à la maison.
Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, j'ai été agréablement surpris, même si on est loin de la comédie de l'année aussi, là. Mais tu sais, c'est ça, c'était plus surprenant. C'est même la fin n'est pas nécessairement celle à laquelle on pourrait s'attendre.
C'est vrai.
Ça essaie de faire différent, mais en utilisant les codes qu'on connaît de ce genre de comédie dramatique-là. Fait que comme, si vous avez besoin de juste, relaxer un peu, puis tu sais, de mettre la switch à off, ben je pense que c'est un bon film pour le faire. C'est une bonne comédie en ce moment, parce que les deux autres dont on va parler, là, c'est pas des comédies, là. Fait que c'est ça, ça fait la job sans être le film de l'année non plus. Puis si vous aimez l'humour de José Garcia, ben je pense que vous allez y retrouver votre compte. Charlotte Gainsbourg, ben c'est ça, c'est une très bonne actrice, fait qu'elle est bonne dans peu importe ce qu'elle fait, là, mais peu importe ce qu'elle joue. Mais c'est ça, thumbs up. Quand même. Surprenant.
Oui.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alex, de tout ça. La semaine prochaine, on a encore plein d'autres films là, à visionner ensemble. Donc, on verra ce que tu auras le temps de voir. Moi, je vais enchaîner. Je vais partir le petit jingle. Puis, on va parler dans quelques instants du roman de Jim. Un film tout en douceur, plein de clichés et pourtant vraiment très appréciable. Donc, vous voulez pas manquer ça.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit.
Vous êtes de retour, donc, pour parler du roman de Jim, le nouveau long-métrage des frères Larieux, donc Arnaud et Jean-Marie, qui est basé sur le roman de... J'ai plus son nom devant les yeux, mais bon. Comédie dramatique, oui, il y a certains moments de comédie, même si je crois que c'est beaucoup plus dramatique qu'autre chose. On suit... le personnage d'Emeric, qui est un Français qui habite tout près de Lyon, là, dans le Haut-Jura, et puis qui... on suit pas mal sa vie sur une vingtaine, près d'une trentaine d'années même. Donc, on commence à ses jeunes années où il a passé quelques temps avec sa copine, quelques années qu'il l'a laissé. Puis là, ça l'amène un peu à re-questionner tous ses choix. Et puis, il finit par rencontrer une femme, donc qui est Florence, qu'il rencontre par hasard et qui est enceinte d'un enfant. Et puis là, il décide de former un couple. Et puis, le père de cet enfant-là est absent parce qu'il est marié avec... puis il est marié, il a une autre famille avec... avec une autre femme, avec une autre famille. Bref, donc Florence a décidé quand même de garder l'enfant et de l'élever seule, mais là, finalement, Aymeric vient se joindre à ça et il va agir un peu comme père de remplacement, si on veut, ou son père véritable à défaut d'être biologique. Et puis, il décide de s'installer justement dans le Haut-Jura, dans les campagnes françaises. Et puis, ils vivent très, très bien plusieurs années de temps, jusqu'à temps que le père biologique de l'enfant revienne parce que toute sa famille est décédée. Il y a eu un accident de voiture qui les a trouvé sa femme et ses deux filles, je crois, mortes. Et puis là, il revient vers ce père... vers ce fils, pardon, biologique. Puis là, ça requestionne un petit moment toute la notion de cette bulle familiale reconstituée-là. Et puis, je dirais pas ce qui devait arriver arriva, là, mais ce qui est de plus triste qui pouvait arriver arrive finalement. C'est-à-dire que Florence décide de reprendre le père biologique et tasse un peu Aymeric, le beau-père du jeune. Le tasse un peu. D'abord, je ne vais pas dire graduellement, mais les deux restent en France. Ils continuent à avoir des contacts, ils continuent à se rendre visite, à faire des activités. Puis peu à peu, les distances se prennent. Et puis le couple, Florence et son nouveau conjoint, décident d'aller habiter au Canada, donc de quitter la France et puis de couper tous les ponts entre Jim et Aymeric. Je vais arrêter ici mon résumé, vu que c'est quand même une longue trame narrative, mais après ça, il se passe toute une histoire où justement, comment est-ce qu'on coupe les ponts et est-ce que c'est bien ou non de couper ces ponts-là. Là où je trouve que c'est peut-être parce que je suis un parent justement, puis je suis plus sensible à ces enjeux-là, mais j'ai trouvé vraiment quelque chose de... Bon, évidemment, c'est sûr que ça tient du mélodrame, là. C'est des situations qui se peuvent à peu près pas, là. T'sais, c'est quoi les chances que le père biologique qui a abandonné son enfant, que sa femme et ses deux filles meurent et puis qu'ils reviennent vers son enfant biologique qu'il n'a pas vu depuis 7 ans? T'sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux dans certaines situations, mais il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans ce film-là. C'est dur à décrire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est doux. Je ne sais pas si c'est parce que le personnage principal, donc Aymeric, qui est joué par Karim Leclou, il est vraiment pathétique. Ça joue à sa faveur, je crois, mais il joue une espèce de gentil géant. Là, je ne sais pas. Il est comme je sais pas, une corpulence, une espèce de bienveillance qui l'enrobe. Et ce qui fait que le parallèle le plus facile que je ferais, là, c'est comme un animal qui a la patte cassée. Là. On dirait que tu veux naturellement le prendre en pitié parce que c'est la personne qui fait don tout correct puis que la vie s'acharne sur cette personne-là. T'sais, c'est quelqu'un qui a, on dirait qu'il n'a pas le contrôle sur sa vie, mais qui se laisse guider au fil de ses rencontres, de ses proches. Bref, on est naturellement porté à le prendre un peu en pitié. Puis ce qu'il vit, c'est relativement horrible de son point de vue, soit celui où il perd pas mal la garde de son enfant de 7 ans, puis il le revoit pas avant qu'il ait une vingtaine d'années ou presque, puis qui, malgré tout, prenne ça relativement bien. Je dis pas qu'il le prend bien, mais qu'il continue sa vie quand même sans trop se morfondre et comme un autre échec, c'est pas facile, mais on continue quand même, puis c'est ça. Fait que je sais pas, donc, si je reviens à mon point, je sais pas si c'est cette aura de douceur-là qui s'installe ou le fait qu'il n'y ait pas de grosses situations mélodramatiques. Tu sais, quand ils en font pas tout un plat, il n'y a pas de scène d'engueulade, il n'y a pas de... Tu sais, ça reste, somme toute, très terre-à-terre, très authentique dans l'approche de tout ça, même si les situations, comme je le disais, là, tiennent plus du mélodrame. Là, tu sais, je sais pas à quel point c'est vraiment crédible tout ce qui se passe là, mais c'est ça, le fait qu'on monte pas ça plus gros que c'est, puis qu'on est comme, la vie c'est tough, regardez, ma vie est tough, mais à un moment donné, il faut continuer à aller travailler, puis il faut continuer à avancer dans la vie, puis il faut pas juste penser à ça. Puis c'est ça, il y a plusieurs autres défauts là, que ça tienne, pas nécessairement au jeu des acteurs, que j'ai trouvé quand même très très bon, là, de la distribution, on compte aussi Laetitia Dutch, Bertrand Bellin, qui est également compositeur dans la vie, Sarah Giraudeau. Mais c'est ça, il y a plusieurs, je sais pas, tu sais, des fois, ça me sort un peu de mes films. Là. Des fois, des faux raccords ou plein de petits problèmes techniques. Ben, des petits. Ouais, c'est ça. Des problèmes techniques ou en tout cas des problèmes de montage qui, des fois, me font sortir du film. Là, il y en avait quand même plusieurs, tu sais, mettons, c'est ça, des scènes qui sont pas raccords, des problèmes de bruitage ou même d'audio. Mais, tu sais, d'habitude, c'est ce qui me sort du film. Mais là, on dirait que je suis resté investi quand même parce que j'étais comme, man. T'sais, qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui peut aller encore plus mal? Puis il trouve toujours quelque chose à avoir encore plus mal. Puis la finale aussi est relativement feel-good malgré tout. C'est vraiment un film touchant, t'sais, pour vrai. Puis les critiques sont étonnamment positives. T'sais, j'ai pas entendu beaucoup parler de ce film-là dans les derniers jours, des dernières semaines. Mais quand je lis les critiques en ligne, ben c'est ça, sont à peu près toutes positives, ce qui me montre qu'il y a quelque chose de bon qui se passe dans ce film-là. Puis c'est ça, je sais pas s'il y a vraiment une plus-value à peut-être être parent pour vraiment sentir toute l'injustice dans la vie d'Emmerich, mais moi je vous le recommande vraiment, c'est probablement le film, là. Évidemment j'ai pas vu Gladiator 2 et Wicked encore, mais c'est probablement le film au cinéma en ce moment que je vous recommanderais, juste parce que c'est ça, c'est une proposition qui fait du bien malgré tout. Ça va mal tout le temps, puis pourtant, on sort de là, puis on est bien, on est serein. Ça fait du bien, tu sais. Je me souviens pas, je pense que le dernier film qui m'a fait sentir comme ça, c'était le biopic sur Fred Rogers, le Beautiful Day in the Neighborhood. Tu sais, c'est ce genre de personnage-là, là, ça commence à dater comme référence, là, mais Fred Rogers, c'était un monsieur qui avait une émission de télé-jeunesse et puis qui prônait la bienveillance et puis qui prônait justement d'être gentil avec son prochain et tout. Ce qui fait que, c'est ça, il dégageait une aura de calme, de douceur qui est vraiment très, très... Qu'est-ce qu'on a de besoin? On se le cachera pas, là. C'est un peu gris. C'est pas juste le temps dehors qui est gris, là. Je pense que notre société en ce moment va pas super bien. Celle au sud de nous non plus va peut-être encore plus mal que la nôtre. Puis c'est ça, on dirait qu'on en manque de ces moments de douceur-là. Puis ce film-là nous montre que malgré toutes les épreuves, toutes les embûches, ben tu sais, c'est ça, il y a du bon quand même qui sort de tout ça, puis il n'y a personne qui mène une vie parfaite, comme on voit sur Instagram. Tout le monde a leur propre parcours différent de vie, puis ça essaie pas d'être moralisateur. Il y a une scène justement où la mère avoue d'une quelconque façon là, qu'elle a menti à son fils pour couper les ponts entre Jim, son fils, et Emmerich, son père d'emprunt. Puis on n'est jamais dans... décrier ça. Tu sais, on le sait, nous, en tant que spectateurs, là, que ça n'a pas de bon sens, qu'elle ait fait tel mensonge, puis que ça a eu telle conséquence dans la vie de ces deux personnes-là. Mais on n'est jamais dans le jugement. On est comme, ben, tu sais, on comprend que c'était clairement pas ce qu'il aurait fallu faire, mais comme c'est ça qui est arrivé pareil, fait comme, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. On prend pas le spectateur pour des cons, puis on le laisse tirer ses propres conclusions. Vous avez le droit, tu sais, peut-être que certaines femmes ou certaines mères, ou ben, certains parents qui ont pris des décisions qui ont eu un impact sur la vie de leurs enfants vont se reconnaître là-dedans, puis qu'ils savent que c'est pas les bonnes décisions qu'ils ont prises, mais qui l'ont pris pareil, puis coudonc, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce film-là que je vous recommande, somme toute, là. Donc c'est le roman de Jim qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. C'est une réalisation des frères Larrieux, donc voilà, allez regarder ça. Je vous parle dans quelques instants de Maria Montessori, qui est la troisième nouveauté qui prend l'affiche, et après ça, ben on va parler de plus anciennes nouveautés, si on veut.
Un jour je vais faire un film, il ne sera pas long. Quelques petits moments autres en arrêt.
Le troisième nouveauté dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film Maria Montessori, La Nouvelle Femme, le nouveau long-métrage de Léa Todorov, qui est française, je crois, mais ou qui est canadienne, ou en tout cas qui a plusieurs citoyennetés, mais c'est une coproduction France-Italie. Là où je dis où elle est canadienne, c'est que sa mère, Léa Todorov, c'est une autrice bien connue ici au Canada, donc de l'Alberta, je crois. Bref, ce nouveau long métrage s'intéresse à Maria Montessori, comme le nom le dit, qui est une médecin italienne qui a développé une méthode pour apprendre diverses choses, des méthodes pédagogiques, bref, pour les enfants atteints de déficience intellectuelle. Si vous avez des enfants à la maison, vous connaissez peut-être justement les jouets Montessori qui sont justement un branding de jouets pédagogiques. Ben, c'est un peu ça ici qu'on retrouve. Donc, on est campé à Rome et à Paris du début du 20e siècle. On y suit Lily Dallangi, est une personnalité parisienne connue à l'époque et puis qui, lorsque ses parents décèdent, reprend la garde de sa fille qui est déficiente intellectuelle. Et puis là, ne voulant pas atteindre à sa réputation, ben, elle décide de lui trouver un endroit pour la placer, malheureusement, donc parce qu'elle ne porte pas vraiment très haut dans son estime les enfants atteints de déficience intellectuelle. Donc, elle trouve une place à Rome qui est gérée justement par Montessori et son amant. Son nom m'échappe à l'amant, mais bref. Donc, elle décide d'aller placer cet enfant-là. Bon, il n'y a pas de place dans la résidence, alors... la jeune fille peut seulement y aller le jour, mais le soir doit rester avec sa mère, qui n'est évidemment pas contente de l'issue de tout ça, mais qui décide d'aller de l'avant quand même. Et puis là, Maria Montessori essaie de prouver à un comité d'experts qu'elle peut apprendre elle peut réhabiliter, si on veut, les personnes atteintes de déficience intellectuelle pour qu'ils redonnent à la société d'une quelconque façon. Que ce soit en leur montrant justement à parler l'italien, parce qu'on est à Rome, que ce soit en apprenant des opérations mathématiques simples, en apprenant justement comment écrire, comment répondre à certaines problématiques. Bref, c'est ça, elle décide d'élaborer une méthode et puis de faire passer des examens justement à ces enfants-là pour prouver que sa méthode fonctionne. À travers tout ça, bon, on suit aussi l'amourette, là, quand je parlais de cet endroit-là qu'elle gère avec son amant, ben, c'est que les deux ont eu un enfant, mais puisqu'ils ne sont pas mariés, ont décidé de camoufler un peu cet enfant-là, donc qui reste en pension là, en banlieue de Rome. Et donc, c'est ça, on retrouve un peu ces deux femmes-là, donc la mère de la personne atteinte de déficience intellectuelle et Maria Montessori, donc qui ont des parcours un peu similaires. D'un côté, c'est l'une qui ne veut plus ou à peu près plus la garde de sa fille, et puis de l'autre côté, ben, c'est une qui veut être mère mais qui ne peut pas vraiment l'être et puis qui l'est un peu par procuration avec ses enfants atteints de déficience intellectuelle. La réalisation, ben, il y a Leila Bekhti qu'on a vu dans certains films français, mais sinon elle est presque exclusivement italienne, cette distribution. Donc Jasmine Trinca, Raphaël Sonneville-Cabi, Raffaele Esposito, Laura Borelli et Nancy Houston, qui est la mère justement de la réalisatrice. Bref, j'ai quand même bien aimé ça. C'est sûr que c'est, en termes de biopic, là, c'est assez conventionnel. Puis je dirais qu'il y a aussi, vers la fin, ça tombe dans... Tu sais, il y a comme une heure et dix, là, qui est assez conventionnel comme biopic. Tu sais, on suit vraiment les étapes un à un. On voit le développement de ces enfants-là. On voit évidemment, ben, c'est ça, si on connaît un petit peu l'histoire, ben, on sait que cette méthode-là va être adoptée par la suite par les pères. Donc, il y a moins d'enjeux dramatiques à ce niveau-là. Mais la deuxième moitié, c'est là où ça surprend un peu plus. Là, on tombe dans un peu plus le personnel. Et cette relation, ben, cet enfant-là qu'elle essaie de se réapproprier d'une quelconque façon, mais qui ne parvient pas totalement à le faire. Bref, j'ai quand même trouvé ça bien. C'est pour une offre, somme toute, assez classique. C'est le genre de film que je verrais jouer au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Un film qui est à la fois... didactique, au sens où on apprend un peu d'où vient cette méthode particulière-là, où on montre aussi des personnages souvent un peu oubliés de l'histoire et la contribution évidemment des femmes à l'époque où les femmes avaient très peu leur place, surtout dans le milieu académique. Et puis... c'est ça, une double marginalité, que ce soit des femmes ou des enfants atteints de déficiences intellectuelles. Donc, ce regard-là était quand même assez intéressant. Mais c'est ça, si vous n'êtes pas fan de film biographique assez conventionnel, ben je pense pas que vous allez... C'est pas le film qui va vous réconcilier avec le genre, là, si on s'entend. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai quand même bien aimé, somme toute. Et puis... c'est ça, il y a des réflexions intéressantes. C'est trois films quasiment qui abordent la parentalité sous différents angles que je vous propose cette semaine. C'est comme ça. Je sais pas, c'est le temps aussi avec l'automne. C'est la période où les films, pas nécessairement à Oscar, là, c'est des films français, donc il n'y a pas vraiment de chance à Oscar, mais les films un peu plus... intellectuelle, un peu plus dramatique. Là, habituellement, c'est à cette période-ci là, qu'ils prennent l'affiche. Donc, il va en avoir plusieurs dans les prochaines semaines aussi. Mais je trouve que, tu sais, sans avoir eu de gros coups de cœur ce week-end, c'est trois films qui ont vraiment... qui ont vraiment résonné chez moi, plus que je l'aurais cru à la base, et puis qui méritent amplement le prix d'un billet d'entrée à la Maison du cinéma. C'est ça. Allez voir ces trois films-là. Donc, je les rappelle, bon, Maria Montessori, La Nouvelle Femme, ainsi que Nous, les Leroy, et le roman de Jim. Dans quelques instants, on va accueillir notre collaboratrice Émilie Boivin qui va nous parler de John Wick 4. Et un peu plus tard à l'émission, mais je vous parle de la plus récente Palme d'Or ainsi que d'un film familial que j'ai vu le week-end dernier. Donc, on s'en va à une petite pause musicale et pause publicitaire. Puis au retour, ben, on reçoit Émilie en studio.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalité. Le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois en studio Émilie Boivin, notre nouvelle chroniqueuse. Salut Émilie, ça va bien?
Ça va bien Alex et toi?
Ben oui, ça va super bien, merci. Oui. Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour parler d'ailleurs de John Wick 4. Oui. Pourquoi? Pourquoi John Wick?
Parce que, bon, écoutez, c'était ma première chronique, puis c'est mon coup de cœur. Alors, donc, j'ai dit, je vais aller avec ce film-là. Et d'ailleurs, c'était un film qu'au départ, je ne voulais pas voir, mais pas du tout, parce que je trouvais qu'il y avait trop de hype, ouais. Et j'avais peur d'être déçue. Mm-hmm. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a convaincue, et j'ai vu le premier, et comme on dit, j'ai plus regardé en arrière.
Ben, c'est très, très bon. Tu sais, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Oui. Je pense quand c'est sorti en 2014, bon, quelqu'un, là, il tue son chien, puis après ça, ouais. Il devient fou. Ben, c'est ça, puis là, c'est devenu complètement autre chose. Là, ça a évolué pour le bien, puis tu sais, autant chaque nouveau film est quasiment une surprise, oui. Tant critique que commercial. Chaque film fait plus d'argent que l'ancien, a des meilleures critiques et tout. C'est un peu un phénomène que personne ne comprend. Oui. Ben, on comprend un peu pourquoi, les causes de ce succès-là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que t'aimes ce film-là. Hein,
oui, il y a plusieurs raisons. Quand j'ai fait les recherches d'ailleurs, le scénario, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait tuer ce que j'ai appris. Et même, il y a des acteurs, mais ils ont finalement choisi Keanu Reeves, qui a le personnage de John Wick, et Chad Lahesky, je vais essayer de prononcer bien son nom. Donc, lui, c'est un ancien... sa formation coordonnateur de scènes d'action, mm-hmm. et surtout du kung-fu. Donc, lui, il l'a repris. Donc, c'est le style qu'on voit dans John Wick. Donc, si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille, mais juste pour faire un petit retour, John Wick, évidemment, comme tu l'as dit, c'est un assassin à la retraite qui part sur une journée de vengeance parce qu'on a tué son chien. Et là, évidemment, ça l'amène dans plein de mésaventures pour se venger, évidemment, de la Grande Table, qui est l'Association des assassins. Mm-hmm. Et on a plusieurs, donc, qui voyagent à travers le monde, juste pour nous amener au chapitre 4. Ouais. Alors, donc, je me suis demandé, justement, pour les auditeurs, pourquoi ce film-là m'avait autant marqué, pourquoi les gens aiment tant John Wick. Ouais. Et j'ai découvert... quatre raisons dans mes petites recherches. Donc, je vais vous parler de ces raisons-là et je vais vous parler de deux scènes en particulier. Mm-hmm. Donc, les quatre raisons.
Ben oui, c'est ça, exact. Mais est-ce que le 4, c'est ton préféré de la franchise jusqu'à présent? Ou tu y reviens plus tard, peut-être?
Ah non, c'est mon préféré de la franchise. Merci de me le rappeler parce que je trouve que vraiment tous les chapitres étaient assez spectaculaires dans les scènes d'action, mm-hmm. dans la cinématographie, mais je trouve que le 4 se démarque particulièrement, mm-hmm. justement à cause de ces deux scènes-là.
Donc, on y va avec les questions, les quatre raisons, en fait, qui en font.
Mais oui, les quatre raisons, d'abord, c'est justement le style cinématographique qui est différent des différents films d'action qu'on a. Donc, si vous vous rappelez, les films à l'américaine comme Jason Bourne, tout ça, on a des mouvements de caméra vraiment très vifs. Alors que John Wick, c'est très stylisé. Donc, la philosophie, c'est d'avoir le moins de mouvements de caméra possible avec des grands plans de vue pour qu'on voie bien vraiment toute l'action qui est devant nous. Donc, il y a ça, il y a les effets visuels aussi. Ce que le directeur a expliqué, c'est qu'il voulait justement qu'il n'y ait pas seulement des scènes d'action de kung-fu, mais qu'il y ait des effets artistiques très visuels qui fait que ça donne un peu un effet jeu vidéo, je trouve. Je ne sais pas si vous trouvez.
Ben tu sais, c'est vraiment une espèce de crescendo dans la série. Là. Le premier était un peu plus sobre, c'était vraiment plus les scènes de combat, mais plus on avance, plus, je sais pas, il y a du néon, il y a de la couleur, il y a des set pieces, là. Oui. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais c'est ça, c'est des grandes scènes, des endroits vastes ou des endroits iconiques, surtout pour le quatrième aussi.
Exactement.
Où là, on se dit, regardez là, on va se battre devant tel élément ou dans telle pièce, peu importe, puis là, on va regarder ensemble la pièce se détruire au fil des batailles. Là. Mais moi aussi, c'est ça, c'est ce qui m'attire aussi, puis la crédibilité, même si on voit
exactement.
Que c'est une espèce de c'est une grosse chorégraphie, essentiellement, mais il y a de quoi, tu sais, dans le cinéma d'action américain, c'est ça, on crée l'action par le montage, bien souvent, là. Ici, on se frappe pour de vrai, même si on comprend que tout le monde est padé, puis personne n'a mal. Là, mais...
Exactement. Ouais. Puis ça le fait que lui avait vraiment, le directeur, une perspective particulière de comment on doit filmer des scènes d'action. Et c'était ces deux principes qui le guidaient d'ailleurs, avoir les scènes les plus réalistes possibles dans un effet stylistique vraiment particulier. Donc,
il devait être déçu, lui, du système hollywoodien pour y avoir participé. D'ailleurs, je pense qu'ils ont travaillé sur La Matrice ensemble, Keanu Reeves puis le réalisateur. Mais c'est ça, il devait être... La Matrice est un bon exemple de comment
exactement.
Faire des scènes.
Oui.
Mais la plupart des autres films, c'est ça, ça doit être frustrant en tant que cascadeur de te dire que... tu fais juste donner un demi-coup là, OK, c'est bon, on reprend la caméra à l'autre place, tu sais, c'est ça, c'est ça, il s'est pas un trip de cascadeur, mais finalement, le public aime ça, puis
je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que justement, les scènes, les plans de vue larges permettent que ce soit filmé des grandes scènes, là, long takes, qui coupent pas exactement.
Ouais.
Donc, fait que ça. Alors, donc ça m'amène à mes deux scènes.
Ouais. Quelles sont-elles? Il y en a tellement des bonnes dans le 4. Il est très long d'ailleurs aussi, hein, le film, presque 3 heures.
Presque 3 heures, 169 minutes, mais ça a passé comme ça.
Ouais.
Alors, c'est probablement les scènes favoris du public aussi. C'est évidemment, moi je l'appelle la fusillade dans le noir, là, mais quand j'ai revu la scène pour me préparer, c'est pas nécessairement dans le noir, mais c'est très intéressant. Donc, on voit évidemment John Wick qui rentre dans un édifice appartement français. Et là, évidemment, on l'attaque. Et ce qui est très intéressant, c'était que, pour moi, on voyait d'abord, les tirs de fusil. On appelle ça en anglais « dragon breath ». Je pense que c'est avec du magnésium. Ça veut dire que tu vois vraiment le tir avec du feu, puis ça illumine un peu la scène.
Ouais.
Donc ça, je trouvais ça spécial. Et l'élément spécifique qui est iconique, je pense, presque inachevé, dans tous les films d'action, c'est les prises de vue aériennes qui les suivent de pièce en pièce. Et ça, apparemment, ils ont fait ça de deux façons. Donc, c'est deux prises de vue qui ont greffé ensemble.
Okay.
Et donc, l'effet vraiment aérien est d'abord achevé avec une grue, crane, c'est ça exactement.
Ouais, c'est ça.
Et voilà. Et puis aussi des drones stabilisateurs qui filment tout de haut. Donc, ça permet de voir toute la scène. Et aussi, quand tu as parlé de la mise en scène vraiment très, très grande, donc ça, c'est ce que le directeur a priorisé. Et l'éclairage est à l'extérieur. Donc, ça fait que vraiment les couleurs, tout ça, c'est vraiment spécifique.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, je parlais de jeux vidéo. J'ai appris que le style artistique est inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Hong Kong Massacre. Donc, c'est ça, le fait que tu vois tous les gens qui viennent et tout
ça.
Donc, vraiment une superbe scène iconique. Et la deuxième, qui va peut-être être aussi un coup de cœur des gens, c'est évidemment la poursuite de voitures autour de l'Arc de Triomphe. Alors, donc ça, je me suis vraiment régalée. Je ne sais pas, est-ce que c'était ta favorite, toi aussi?
Ben oui, mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une espèce de shift. Là. Puis je pense qu'ils le font dans le troisième aussi, où tu sais, là, ils font un search warrant, ou une mise à mort un peu. Puis là, tout le monde se ligue ensemble, puis avec l'utilisation de la radio aussi.
Oui, c'est ça.
L'utilisation de radio qui suit un peu là, le parcours de John Wick. Mais là, c'est ça, il est en danger partout, puis il doit se rendre d'un point A à un point B en affrontant tout ce danger-là. Fait que c'est sûr que là, il y a comme un autre niveau de d'enjeu ou de danger là, qui rentre à ce moment-là du film. Là.
Et puis le danger est aussi créé, avant de parler de la scène, du fait qu'ils ont choisi de faire en sorte, et c'est inspiré de Jackie Chan, de faire en sorte que Keanu Reeves est toujours en mouvement, toujours en train de courir, justement parce qu'il y a une...
un bounty.
On a la misère, c'est ça. Donc, sur sa tête. Et quand tu parlais des anciens radios aussi, tu vois aussi les filles avec les filles de téléphone, avec les câbles et tout ça.
Je trouve ça
très intéressant. Donc, évidemment, il doit, si on se rappelle dans le film, c'est une course contre la montre pour se rendre à temps à
Sacré-Cœur.
À Sacré-Cœur. Donc, pour avoir un duel avec le marquis de Beaumont, je pense, quelque chose comme ça.
Je me souviens plus exactement.
Donc, celui qui est comme le président par intérim de la Grande Table, pour avoir sa liberté, parce que sa vengeance l'a amené là. Mm-hmm. Et voilà. Donc, la première, ce que j'ai écrit, la fusillade dans le noir, c'est une des premières scènes. Et là, évidemment, il se pitch du building pour tomber. Et là, il court, il est dans le trafic. Et on arrive à la scène de l'Arc du Triomphe. Intéressant aussi, c'est que Keanu Reeves, c'est lui qui fait la plupart de toutes ces cascades. Il s'est préparé pendant plus de 6 mois environ. Alors donc, la scène, on se rappelle, hein, c'est vraiment, il saute sur une voiture, une Mustang, il tire le conducteur de là et évidemment, là, tout le monde le poursuit, tout le monde veut l'arrêter.
Ouais.
Et donc, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que maintenant, il fait des tours par en arrière et il y a une grande scène, là, c'est comme on appelle ça un bang. Il fait un énorme bang pour tuer tout le monde et se rendre. Donc, tout ça, ça s'est filmé, évidemment, pour avoir, encore une fois, une prise de vue qui le suit. On avait toutes sortes de styles de caméras, mais des dollies, des chariots, des cranes. Et c'est vraiment tout ce qui est fait en sorte, donc les styles de caméra, la lumière, le fait en sorte que Keanu s'est vraiment préparé et que c'est du rarement vu pour faire toutes les cascades par en arrière et par devant. C'était vraiment mes scènes favoris. Alors, donc, Keanu Reeves, je vous en parle maintenant, c'est le John Wick 4. Ça s'en vient, c'était le favori, pardon. Ce qui va sortir maintenant, c'est Ballerina.
Ouais.
Donc, Ballerina s'en vient. Ça va être où on va voir John Wick apparaître. Ça reprend l'histoire entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Et puis, c'est supposé sortir là, pour juin 2025.
Il y a une série aussi de Continental qui est sortie un petit moment, là, je crois. Je me souviens plus quand, mais déjà sortie aussi. Elle est sortie pas longtemps après John Wick. Là, mais il me semble qu'elle est sur Prime. Il faudrait que je vérifie mes informations. Mais oui, c'est ça. Il commence à, le lore un peu de John Wick commence à grandir parce qu'on se doute bien que Keanu Reeves ne pourra pas faire ça non plus. Jusqu'à 90 ans. Là, donc,
il est quand même la soirée en télé, monsieur.
Mais oui, puis c'est ça. Continue à nous surprendre, série John Wick, parce que c'est ça. À chaque fois, on se dit ben le concept est épuisé, puis à chaque fois, ben il trouve une façon de le renouveler ou en tout cas de le faire encore plus grand, plus extravagant. Donc, tant mieux.
Moi, je suis mordu, puis je suis là pour toutes les suites et les spin-offs.
Génial. Ben, merci beaucoup, Émilie, de nous avoir partagé ton amour de John Wick. De notre côté, on s'en va un petit bloc de nouvelles et on revient dans quelques instants pour parler de Anora, la plus récente Palme d'Or.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script et dans le scénario, il n'y a pas du tout de tragédie.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben parlons, je fais un petit peu de rattrapage des dernières semaines, plus précisément de la semaine dernière, puisque Anora a pris l'affiche vendredi dernier à la Maison du cinéma. Ça faisait déjà au moins une semaine, sinon deux, qui étaient sortis à Montréal. Je suis allé voir, j'ai profité de ma semaine de vacances pour aller voir Anora, donc la plus récente Palme d'Or, réalisée par Sean Baker, à qui l'on doit notamment les films Tangerine, Florida Project, Red Rocket récemment. Et puis là, ben son film, c'est ça, le plus sacré jusqu'à présent, aborde... Encore une fois, la question, c'est des thématiques récurrentes un peu dans son œuvre à Sean Baker, mais une travailleuse du sexe, donc c'est une... On va dire une étude de personnage, mais c'est très difficile à catégoriser là, ce film-là. Mais on suit Anora, donc une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn, qui se transforme un peu en Cendrillon lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Alors, moi, je commence d'entrée de jeu avec... c'est comme un film en trois sections ou trois tons relativement différents. Dans le premier, on vit justement l'espèce de film, je sais pas comment le dire, là, mais l'espèce de... Pretty Woman des temps modernes. Là. Essentiellement, on voit justement leur relation se construire au fil des scènes, au fil de l'extravagance aussi des parties auxquelles ils assistent, auxquelles son chum Vanya organise. Et puis, c'est ça, ils s'en vont à Vegas, ils vivent vraiment la vie des gens riches et célèbres. Ils se marient, on se doute tous que c'est pas là. que c'est pas une bonne chose qu'ils se marient. Parce que c'est ça, c'est le genre de mariage que tu fais sur un coup de tête à Vegas et puis qui finit trois quarts du temps en divorce. Et puis, ben c'est ça. Donc, on les suit un peu à travers ça. Mais à partir du moment où là, les parents sont au courant de ce mariage-là, puis décident de mettre de la pression avec leur goon arménien sur leur fils, mais là, ça prend une tournure complètement différente qui n'est pas sans rappeler peut-être là, les... Je sais pas, des comédies des années du début des années 2000, tu sais, des espèces de films un peu frénétiques où des gens se font pourchasser, où ils pourchassent des gens, mais toujours dans le ton de la comédie. Il y a une grosse scène là, qui est assez centrale et emblématique du film, où justement les goons rentrent, pas nécessairement par effraction, mais ils rentrent chez le jeune, et puis là, le jeune décide de se pousser, tout simplement. Et puis Anora reste à la maison, mais là, elle se fait empêcher de sortir. Donc là, ils se battent, mais ils veulent pas la frapper parce que c'est une fille. Mais en tout cas, là, ça devient relativement violent. Puis il y a comme un gros 35 minutes à peu près de cette scène-là où c'est des goons qui se font menacer par elle. Ça prend une tournure un peu burlesque qu'on voit pas vraiment venir avec la première demi-heure du film qui est somme toute assez... ça me faisait penser un peu à Noémie dit oui ou à Pretty Woman, encore une fois. Là, ça restait très dans... OK, ça, c'est une travailleuse du sexe, puis on sait que ce qui s'en vient, c'est pas bon, mais on sait pas à quelle hauteur ou jusqu'où ça va aller pour pousser tout ça. Mais quand ça vire en comédie, on dirait que, là, selon moi, en tout cas, du moins, c'est là que ça devient vraiment bon. Mais le problème, c'est que quand ça retombe puis qu'on quitte un peu l'aspect comique pour s'intéresser aux dernières 20 minutes qui, là, sont encore un peu plus dramatiques, un peu plus en ton avec la première section du film, ben c'est là que je trouve que ça perd un peu de son efficacité parce que pendant pas loin d'une heure, on va être sur le gros high, un gros rush d'adrénaline et de comédie où là justement c'est les goons et Anora qui essaient de retrouver Vanya pour pour se parler. Les goons veulent faire annuler le mariage. Elle veut essayer de dire « Mais là, on s'aime-tu vraiment ou pas? » Puis ça vire un peu, là, si vous avez vu le film After Hours de Martin Scorsese, ça ressemble un petit peu à ça. Une virée nocturne dans New York, dans les lieux sales de New York. Là, le Brooklyn pas très propre, des diners avec des paumés, des strip clubs, des trucs comme ça. Mais puis toujours avec... pour vrai... c'est un peu dommage de dire. Oui, Mickey Madison qui joue Anora est très très bonne, mais selon moi, les vrais stars du film, c'est les trois goons arméniens parce qu'ils sont vraiment pathétiques. D'autant plus qu'il y en a un des trois qui est un peu comme commotionné. Ce qui fait que ses réactions sont toujours un peu imprévisibles tout le long. Il se met à vomir en plein milieu du char sans aucune raison. Il s'endort le trois quarts du temps. Toutes ses répliques font aucun sens. Puis c'est ça, on vit vraiment dans du burlesque, ce qui est très, très dur à prévoir. Puis ce qui m'étonne pour ce genre de film-là, que je pensais qu'il allait être un peu plus dans... nous sommes dans le jugement, mais c'est une représentation un peu plus authentique peut-être là, du milieu des travailleuses du sexe. Fait que c'est vraiment particulier comme film, je l'avoue, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais comme je dis, j'ai l'impression que son aspect dramatique est moins efficace à cause de cette grosseur de comédie-là qu'on nous sert, qui vient un peu faire de l'ombre aux parties un peu plus dramatiques. La finale est quand même assez touchante, puis amène un peu de complexité au personnage d'Anora qui, pas mal tout le long du film, on se demande un peu pourquoi elle se met dans ces situations-là, pourquoi est-ce qu'elle n'essaie pas justement de sortir de là quand clairement on voit que c'est pas un bon plan pour elle. C'est ça, la dernière scène essaie d'ajouter un peu de nuance dans tout ça, mais on dirait que pour moi du moins, pour certaines personnes je pense que ça a été leur scène préférée, mais pour moi on dirait que c'était comme... C'est ça, ça avait moins d'impact, je crois, que si la partie comique avait été soit moins longue ou soit moins ridicule ou burlesque qu'elle l'est ici. Cela dit, c'est quand même un de mes films préférés de l'année. Je crois que le Festival de Cannes est, depuis quelques années, un peu dans, sans nécessairement dire la provocation, mais dans... souligner avec ses prix des films un peu moins conventionnels. On avait eu Titan là, il y a 2 ans qui était essentiellement un film d'horreur avec une femme qui couche avec une voiture. On avait eu c'est quoi dans la dernière année? Triangle of Sadness aussi là, qui était lui aussi burlesque à ses heures. Avec celui-ci, Anora, j'ai pas vu beaucoup de films de Sean Baker. J'ai l'impression que ça va être celui qui va marché le plus. On va le revoir aux Oscars, c'est sûr. Anna Robb, peut-être meilleur scénario, meilleure actrice, peut-être meilleure réalisation, quoique j'ai pas été plus impressionné que ça non plus par la réalisation. Mais c'est ça, on semble vouloir aller un peu dans la provocation, sortir un peu des films qu'on considère comme universellement bons pour aller dans des films qui brisent les codes du genre, qui essaient de faire quelque chose de différent, qui représentent un peu ce nouvel Hollywood, même si Sean Baker commence quand même, il fait des films depuis le début des années 2000, donc il commence à être un peu plus âgé, là, mais tu sais, il fait des films avec des iPhones, il fait des, tu sais, il essaie des techniques, il essaie de briser un peu les codes du genre, tout en nous déstabilisant pas trop avec ceux-ci, fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'était une palme d'or un peu provocatrice pour montrer qu'il se fait pas juste des Marvel à Hollywood, mais il se fait aussi ce genre de film-là. J'espère que ça va lui ouvrir des portes parce que honnêtement, moi, c'est un réalisateur que je trouve très, très prometteur, que je mettrais dans la même ligue qu'un peu Damien Chazelle, tu sais, qui essaie pas de faire le même film à chaque fois, qui essaie de... C'est ça, de se réinventer de film en film. Tant mieux si ça lui ouvre des portes, parce que c'est ça, je pense que c'est vraiment un réalisateur à suivre de très près. Mais je vous invite vraiment à aller voir Anna Robb. C'est toute une ride. c'est vraiment le meilleur qualificatif que je peux dire. J'aimerais ça le revoir pour voir à quel point il y a peut-être une profondeur ou pas à ce personnage d'Anna Robb qui n'est pas nuancé jusqu'à la dernière scène. Mais... C'est ça, ce sera à voir. Il faudra peut-être que laisser un peu le temps au film de vivre, de respirer pour qu'il y ait des analyses et puis que c'est ça, pour que je puisse en dégager quelque chose de plus que c'était très divertissant. Mais allez voir ça, pour vrai, c'est sorti la semaine dernière, ça va être encore à l'affiche cette semaine, donc pitchez-vous pour aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. On s'en va en pause publicitaire, au retour on parle de Wild Robot et on achève cette émission de Ciné-Histoire. Restez des nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments, collés les uns aux autres, sans narration.
Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben c'est ça, je veux faire une petite parenthèse sur un film qui est sorti il y a quelques semaines, mais que j'ai trouvé vraiment très appréciable. Je l'ai mentionné un peu plus tôt à l'émission. J'ai fait une petite sortie avec mon plus vieux fils de 2 ans et demi. Je me suis dit, on va voir s'il est prêt à aller au cinéma ou pas. Et puis, ça s'est somme toute bien passé. On est allé voir The Wild Robot, en fait, le robot sauvage, le nouveau film d'animation de DreamWorks, réalisé par Chris Sanders, à qui on doit notamment How to Train Your Dragon. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a des trailers en ce moment sur le live action de How to Train Your Dragon. C'est pas lui qui le réalise, mais c'est lui qui était à la tête de ce projet-là et de d'autres, Lilo et Stitch. Bref, il a fait quand même une grosse feuille de route, Sanders, dans le cinéma d'animation. Et puis là, ben, il arrive avec une histoire originale, soit The Wild Robot, dans laquelle on peut entendre les voix notamment de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor et Bill Nighy. C'est un film qui... mais qu'il y a quand même certains parallèles avec Wall-E, là, on se le cachera pas. Quoique là, ça se passe bel et bien sur la Terre. En gros, on suit le robot Rozum 7134 qui est dans une tempête tropicale, s'échoue sur une île déserte avec plein d'animaux et puis qui ne cherche qu'à accomplir des tâches, ne cherche qu'à servir qui veut bien lui donner une tâche. Donc là, évidemment, ben il n'y a pas d'humain qu'elle peut servir, donc elle doit servir les animaux. Elle apprend leur langage et puis là, elle se met à trouver une tâche. Et cette tâche, ben, c'est de prendre soin d'un oiseau qui vient d'éclore et puis qui, ben, dont la famille a été tuée pas mal par le robot là, en tombant sur le nid. Bref, il y a un œuf qui survit à tout ça. Et puis là, elle décide d'accompagner cet oisillon-là qui a... Des petites malformations également. Il y a des ailes plus petites que les oiseaux d'habitude. Puis là, ben, elle doit le mener, on va dire, à la grande migration que son espèce vit à cet oiseau-là. Donc, elle doit lui apprendre à voler, doit lui apprendre à se nourrir, à nager. Bref, c'est ça, pour que l'oisillon soit bien prêt pour cette grande migration-là. Évidemment, ben, c'est ça, là, moindrement que ça touche les animaux ou les robots. C'est comme facile de je sais pas, c'est quoi le terme exactement, là, mais de trouver que leur situation est triste, là, de transposer nos émotions d'humain à des choses qui ne sont pas humaines. Bref, c'est ça. Ben, on va suivre un peu cette quête-là. Donc, le robot qui joue un peu le rôle de la mère. Le rôle du père est joué par un renard là, qui est pas mal le mal-aimé de l'île aussi, puis qui est, en théorie, l'ennemi juré de cet oisillon-là. Mais il va décider, pour une raison quelconque, de ne pas être cet ennemi-là. C'est ça, on les suit à travers tout ça jusqu'à temps qu'ils soient prêts à cette migration-là. Et puis, en parallèle, ben, on comprend aussi que la société n'est plus exactement celle qu'on connaît. Oui, encore des humains, mais on vit dans des bulles à cause de la pollution. On fait pousser nos légumes dans des serres qui sont gérées, administrées pas mal par des robots. Donc, on comprend que le robot est pas mal un esclave moderne, si on veut. Et puis, c'est ça, il y a toute cette question une fois qu'elle arrive au terme de sa tâche, ben, le robot, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle agit en robot, c'est-à-dire qu'elle se shut down ou elle retourne à l'usine et puis sa tâche est accomplie. Évidemment, on est très triste de tout ça, mais bref, c'est ça. Donc, on suit un peu le parcours, leur relation qui se forme et puis la fameuse idée de est-ce qu'on peut faire naître des émotions humaines à des robots, à de l'intelligence artificielle. C'est des choses encore aujourd'hui qui sont d'actualité, qui l'étaient autant de Wall-E, qui l'étaient autant même des années 50 et 60 quand les auteurs de science-fiction comme Isaac Asimov se questionnaient un peu sur ces intelligences-là ou ces robots-là une fois qu'ils vont naître. Quel sera leur rôle dans la société. Globalement, j'ai trouvé ça très, très bien. Il y avait quelques enfants dans la salle aussi, puis je peux pas témoigner vraiment pour mon fils, mais je trouve que c'est un film qui est un peu plus... il se passe pas de gros drames, il se passe pas de grosses affaires tristes, ce qui est quand même une bonne chose. Je mentionnais tantôt le climat un peu maussade des derniers temps, que ce soit un climat environnemental ou un climat politique. Des films comme ça, ça fait du bien. Et puis, on en ressort quand même serein, malgré tout. Il n'y a pas de grosses situations dramatiques. Les enjeux sont un peu classiques, mais c'est ça qui... globalement, tu sais, c'est ça, c'est un coming of age relativement classique, puis qui est un peu, qui s'éloigne un peu là, de l'espèce de, je sais pas, là, tu sais, l'autre offre en ce moment en termes de cinéma d'animation, ben, c'est Despicable Me 4 là, qui est très nerveux dans son approche, qui est très faire des sons aigus, faire du bruit, le plus de tout, de bruit, de scène, de tout. Bref, ici, on est vraiment dans un climat un peu plus serein, un peu plus posé. On prend le temps de regarder les beaux paysages, la belle animation qui est créée. C'est une animation, là, ça paraît peut-être pas en regardant le poster, mais en regardant la bande-annonce, c'est sûrement que ça paraîtrait un peu plus. C'est, tu sais, qui est très aquarelle un peu, qui est très colorié. Et non pas juste de l'animation 3D un peu générique là, comme Pixar ou d'autres films d'animation, Despicable Me. Là, c'est ça, on sent qu'il y a comme une valeur artistique ajoutée. La musique aussi est très très bonne. Là, je sais pas, je vais pas regarder qui l'avait composée, mais vraiment très efficace. Je l'ai pas devant les yeux, fait que je pourrais pas vous le dire. Mais bref, c'est ça. J'ai trouvé qu'il cochait beaucoup de cases que, par exemple, How to Train Your Dragon cochait à l'époque. C'est-à-dire d'être une offre différente dans le cinéma d'animation qui est très très, à mon avis, là, homogène en ce moment, si ce n'est des Spider-Man là. C'est ça. Across the Spider-Verse, en tout cas, toute cette série-là qui essaie un peu de réinventer le style d'animation cartoon. Là. Mais tu sais, sinon, c'est très Disney, Pixar, puis Illumination comme approche du cinéma. Il y a quelques joueurs, les studios Laika qui font beaucoup plus dans la stop-motion. Les films de Lego qui, selon moi, on n'est plus vraiment dans la stop-motion. C'est de la fausse stop-motion. Mais bref, c'est ça. Les DreamWorks... C'est le studio derrière les Shrek, c'est le studio derrière How to Train Your Dragon. Des offres alternatives qui sont souvent surprenantes. Puis c'est pas mal ça que je donnerais comme étiquette à ce film-là aussi. C'est un autre très bon pas pour ce studio d'animation-là, pour Chris Sanders en tant que réalisateur d'animation. Puis c'est ça, des valeurs universelles. T'sais, c'est un film qui va plaire. J'avoue, 2 ans et demi, c'est peut-être un peu jeune pour comprendre, on va dire, les enjeux du film. Je pense qu'il a trouvé son compte quand même avec le style d'animation puis tout ça. Mais c'est ça, quand on a l'âge de comprendre un peu les enjeux, mais c'est quand même assez touchant. Puis c'est des films, c'est ça qui parle tant aux enfants qu'aux adultes. Là. Je pense que les adultes sont un peu tannés de Despicable Me en ce moment. Ou tu sais, des films qui sont soit très axés sur les enfants et qui n'ont pas de valeur ajoutée, soit être adolescent. Tu sais, un adolescent peut avoir du fun quand même en regardant The Wild Robot. Un adulte aussi, il ne va pas s'ennuyer dans le film. Un enfant va trouver les animaux cute ou des enfants de même. Fait que, tu sais, c'est ça, ça ratisse large et je crois vraiment que c'est, ça joue en sa faveur comparativement à d'autres offres qu'on a eues dans les derniers temps. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir ça, Le Robot Sauvage. Et je pense qu'il va être là probablement jusqu'à Noël ou en tout cas, il achève peut-être sa run, mais quoi que s'il est encore cinquième au box-office québécois. Donc après ça, là, je sais plus, ça fait combien de semaines qu'il est sorti le 27 septembre. T'sais, ça fait quand même presque deux mois qu'il est à l'affiche. Puis il est encore cinquième au box-office. Je sais pas s'il va se rendre jusqu'à Noël parce qu'il y a quand même d'autres films qui s'en viennent à ce niveau-là. Mais c'est ça. Ça reste un très très beau film. Je vous encourage à aller voir si vous pouvez, si vous avez des enfants, allez voir ça. C'est une belle petite sortie. Sinon, ben, c'est ce qui conclurait mon tour d'horizon de cette semaine. Je voulais vous parler du numéro de la revue Séquence, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Sinon, ben, comme toujours, écoutez-nous sur le CFAC 88.3 FM en direct. Sinon, sur Spotify, Apple Podcast. Allez voir nos réseaux sociaux aussi. On a un Blue Sky maintenant. Peu importe si vous utilisez ça. Là, je ne sais pas s'il y a encore un gros buzz autour de ça, mais allez voir ça. Puis merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais remercier aussi Émilie Boivin d'être venue nous parler de John Wick 4. Merci à Alexandre Tardif qui est venu nous jaser de Nous, les Leroy. On va le retrouver, je l'espère. On va les retrouver la semaine prochaine, je l'espère, pour d'autres nouveautés cinématographiques. D'ici là, ben, bon cinéma. Allez profiter de Wicked, de Gladiateur 2 ou ben de tous les autres films dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire.